7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Vous le savez, RFI consacre une journée spéciale aux migrants africains en Libye. Et chez 7 milliards de voisins, nous allons entendre des histoires glaçantes. Les migrants, la traite et l'esclavage moderne. Combien de témoignages encore pour que le monde se lève? Combien de reportages? Combien de larmes et d'effroi faudra-t-il pour que les victimes de la traite soient libérées, protégées, pour que les coupables du trafic humain soient poursuivi. La question nous concerne tous et le temps presse, à commencer pour cette Camerounaise de 28 ans, détenue en ce moment même en Libye comme esclave sexuelle dans une maison. Elle a accepté d'utiliser son téléphone caché pour crier au monde son désespoir. Charlie Dupiot a recueilli ce témoignage rare.
En 2015, nous avions pris la route Nigeria-Niger-Algérie. Elle a pris la route du Maroc. Arrivé là-bas au Maroc, nous avions pris la route de la Libye. Arrivé à Derbent, on nous a posé la question de quelle nationalité nous sortons. Nous avions dit Cameroun. C'est comme ça qu'on nous a amenés dans la communauté camerounaise. Je suis déjà traumatisée comme vous me voyez là. Arrivé là-bas, comme ça, ils nous ont demandé de prendre la route. On a marché jusqu'à près de 4 heures. On nous a demandé de dormir quelque part. On a dormi là. Après là, ils nous ont encore réveillés. Ils nous ont mis dans les véhicules, dans les pick-up. Ils ont roulé, roulé, roulé. Arrivé à un niveau, ils ont garé. On a trouvé d'autres personnes là-bas. Les voitures étaient toujours garées. On nous a mis dans la maison là.
Quand vous dites « ils », ce sont les passeurs libyens ?
Fait qu'ils n'ont peur quoi.
Qui sont libyens ?
Oui. Ils ont fait coucher tous les hommes au sol. Ils ont commencé à coucher les femmes. Ils nous ont couché là. Mais il y avait une dame là, elle avait une petite grossesse. Je pense entre 2 à 3 mois. Et une autre petite fillette. Sa fille a commencé à pleurer. Laissez ma mère, laissez ma mère. C'est comme ça qu'on a tué la petite fille là. Quand ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire, ils nous ont encore mis dans les voitures, dans les pick-up. Ils ont commencé à rouler. À un niveau encore, ils se sont encore arrêtés. Toujours une maison comme ça, 4 rues, mais pas de toiture. Nous sommes restés là. Ils nous ont encore demandé de sortir. C'est comme ça qu'on nous a partagé. Mon frère, moi, je suis partie. Donc, depuis ce temps, je n'ai plus revu mon frère. Je me disais qu'il était dans le véhicule. C'est comme ça que ma prison a commencé. Comme je vous dis là, jusqu'à aujourd'hui, on nous couche en désordre. Très tôt le matin, ils nous mettent dehors. Ils nous versent de l'eau. Ils nous couchent devant les hommes. Ils nous amènent ailleurs. Ils nous vendent comme ça. Parce que c'est leur business qu'ils font ici, là. Quand un te prend, tu travailles là 2 mois. Parce qu'ils nous vendent. On peut te coucher. Pour 10 dinars. Donc par jour, même 4 hommes, même 5 hommes peut te coucher. Si tu refuses, ils te tuent. Personne ne te réclame. Comme je vous parle là, je suis même opérée. Parce qu'ils m'ont pris. Ce jour-là, 4 hommes m'ont couché. Le 5e, j'ai dit que je ne pouvais plus. Et entre-temps, lui voulait me coucher par derrière. Je lui ai dit que non, on pouvait tout faire, mais pas jusqu'à ce niveau. Il a pris l'arme, les longues armes qui sont comme les armes des chasseurs. Il m'a donné ça sur le ventre. C'est comme ça qu'il a commencé à saigner. Je suis resté là. 2 jours, toujours en train de saigner. C'est comme ça qu'un autre arabe arrive. Il vient me trouver. Il voulait aussi me coucher. Il me trouve avec le saignement. Maintenant, moi, je ne parle pas arabe ni l'anglais. Il y a certains blacks et ceux qui travaillent avec eux, les Nigériens et les Gambiens. Il ramène le Gambien là, lui s'exprimait un peu en français. Il me porte, il m'amène à l'hôpital. On m'a opéré là-bas, j'ai fait là-bas à l'hôpital 4 jours. Ils m'ont ramené, sans aucun médicament. Je n'ai personne qui peut me faire le pansement. Je faisais même les fers là sur place. Je n'ai jamais connu le dehors. Ça fait 2 ans aujourd'hui que je traverse en Libye. Toujours dans les voitures, toujours dans les maisons enfermées. Avec l'arabe là, ils m'ont amené dans leur maison. Sur le Libyen, là, dont le Gambien, là, travaille avec le Libyen, là.
Et donc là, en fait, vous êtes toujours dans cette maison-là, c'est ça, chez cet homme?
Oui, le Gambien, là, m'a volé. L'arabe, là, je suis là comme sa femme.
Et vous savez s'il vous a acheté, s'il a payé quelqu'un pour vous avoir à sa disposition?
Je pense qu'il a payé assez.
Et ça fait combien de temps que vous êtes dans cette maison-là?
Ça fait quelques semaines seulement.
Et vous êtes seule dans cette maison?
Il y a d'autres gars blancs qui travaillent, d'autres qui lavent les chiens, les voitures. Ils les amènent travailler. Donc, le soir, ils les ramènent dans les prisons. Moi, je suis toujours enfermée dedans. Je suis son esclave. Et ils ont déjà même encore me vendre. Dès que je me rétablis bien, ils vont me reprendre pour me revendre ailleurs. Parce que c'est en Libye, quand tu es un peu pour télé, quand on te voit que tu as les fesses, on t'achète. Parce que les Libyens aiment les femmes corps et les fesses.
Et donc, vous pensez qu'il va vous revendre?
Oui.
Aujourd'hui, vous diriez que vous êtes l'esclave sexuel de cet homme?
Oui, il est seulement le seul qui me couche avec le Gambien là.
Donc là, aujourd'hui, c'est lui qui vous viole avec ce Gambien qui est de passage de temps en temps?
Oui.
Il vous tape quand vous refusez, c'est ça? Il vous frappe?
Depuis que j'ai été opérée, on ne me tape plus, à part quand il veut coucher avec moi.
Et qu'est-ce qu'il vous demande d'autre, cet homme? Est-ce qu'il vous demande de travailler, de faire des tâches dans la maison?
Je ne sais rien parce qu'il a peur que s'il ouvre la porte que je sors, je vais fuir. Donc, seulement aller à la douche et rester là sur le lit. Je suis toujours nue. J'ai de la couverture sur moi. Pourquoi tout le temps, doit me trouver nue.
Pour vous violer?
Oui.
Et là, il est où présentement? Il n'est pas dans la maison?
Non, il est sorti. Il a amené les gars au travail.
Mais vous avez pensé à vous échapper déjà?
Je ne peux pas passer la hauteur de la fenêtre. Si j'essaye de m'échapper, je vais me casser. Oui, il y a les gardiens tout autour de la maison, il y a les chiens. Donc, c'est pas facile de m'échapper. Puis, quand ils sont, ils ferment la porte à clé.
Et vous êtes où là présentement? D'où est-ce que vous nous parlez?
Je suis dans la maison, je suis à la douche.
Et vous devez vous cacher pour téléphoner?
Oui, parce qu'il ne sait pas que j'ai le téléphone. Seulement le gardien qui sait que j'ai le téléphone. Mais il contrôle mes appels. Donc, quand je finis de faire comme ça, je supprime encore tout.
Et vous êtes en contact avec qui?
Seulement avec mon frère.
Qui lui est à Paris?
Oui. Le Gambien, je lui ai donné le nom du Facebook de mon frère. Mon frère le répond aussi. C'est ça qu'on a commencé à communiquer. Il a dit à mon frère que je suis mourante. Si mon frère peut envoyer un peu d'argent pour qu'il m'achète le médicament. Comme ça que mon frère envoyait un peu d'argent. Il m'a acheté le médicament. Je lui ai dit qu'il m'achète aussi le téléphone. Donc je ne sais combien mon frère l'a envoyé.
Et comment vous vous sentez alors aujourd'hui?
Comme je suis en train de parler là avec vous. Ça me remonte un peu le moral, mais je suis traumatisée. Je peux devenir folle. Je suis fatiguée. Je dois me coucher en désordre. Je ne sais plus quoi faire.
Charlie Dupiot, la conversation téléphonique avec cet esclave sexuel en Libye a coupé brutalement au moment de l'enregistrement la semaine dernière.
Oui, le Libyen est rentré dans la maison à ce moment-là, c'est ce qu'on a appris plus tard. Alors le frère de cette jeune Camerounaise est à Paris, il a envoyé près de 600 euros pour la faire libérer, mais cela n'a pas suffi. Aujourd'hui, elle est dans une autre maison, détenue avec trois autres femmes et toujours victime de viol, selon son frère.
Mathieu Luciano, vous êtes avec nous de Genève. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de l'unité d'assistance aux migrants vulnérables et spécialiste des questions de traite humaine à l'Organisation internationale des migrations. Où en est l'OIM dans la protection, le rapatriement de migrants détenus en Libye par rapport à ce que vous venez d'entendre?
Bonjour. D'abord, je voulais revenir un peu sur le témoignage qu'on a entendu, oui. Qui malheureusement n'est pas une histoire isolée. On sait que les migrants en Libye sont victimes de violences et d'abus, que certains migrants sont victimes de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, comme on l'a entendu dans ce cas, mais aussi pour le travail forcé. Alors le témoignage qu'on a entendu soulève en fait un problème qui est un problème important, c'est celui de l'accès aux victimes de la traite pour les libérer et pour les protéger, ce qui est effectivement très difficile dans le cas qu'on a entendu où la personne est exploitée par un particulier dans une maison individuel. Alors on se concentre effectivement à l'OIM en ce moment sur les migrants qui sont détenus dans les centres de détention et le gouvernement libyen a donné accès à l'OIM à tous les centres de détention dont il a le contrôle.
Donc depuis les accords avec l'Union africaine, l'Union européenne et les États africains et les autorités
exactement,
libyennes.
Exactement. Donc l'OIM avait déjà accès à certains centres de détention, mais depuis les deux dernières semaines et l'accord en fait qui a été passé entre l'Union africaine, le gouvernement libyen et l'Union européenne, effectivement un accès plus important a été donné à 15 000 femmes et hommes qui sont détenus pour le moment. Et ce que fait l'OIM, c'est travailler effectivement avec les autorités libyennes et nos partenaires, notamment les gouvernements des pays d'origine, pour assister les migrants qui sont détenus. Et cette assistance comprend notamment l'aide au retour volontaire, que l'on accompagne d'un appui personnalisé pour leur intégration. Donc pour vous donner quelques chiffres et l'ampleur effectivement de l'accélération de l'opération qui se met en place depuis les accords que vous avez mentionnés, l'OIM a aidé en 2016 4000 migrants à rentrer dans leur pays d'origine. En 2017, ce chiffre a augmenté et on a assisté 15 000 migrants. Et l'idée, effectivement, l'objectif, c'est d'ici la fin de l'année, d'ici la fin du mois de décembre, d'aider 15 000 migrants supplémentaires à rentrer chez eux et être intégrés dans leur communauté d'origine.
Oui.
Donc c'est un travail que fait l'OIM, avec les pays d'origine des migrants.
Pour peu que ces migrants soient dans des camps connus, localisés, accessibles aussi par les organisations internationales, par les forces de police locales.
Exactement, c'est la contrainte. Ouais. Comme j'ai dit, effectivement, l'accès aux victimes et aux migrants qui sont exploités est un problème en Libye. Il faut garder à l'esprit que la Libye est un pays comme grand, comme plusieurs fois la France. Tout le territoire n'est pas contrôlé par le gouvernement. L'insécurité règne dans plusieurs parties. C'est effectivement difficile d'accéder aux populations qui sont isolées. Donc on se concentre effectivement pour le moment sur les migrants qui sont
accessibles. Pour le cas de ces jeunes femmes esclaves sexuelles détenues dans des maisons individuelles vendues comme esclaves, quelle peut être l'issue ? Quelles peuvent être les solutions ?
Alors les solutions, elles sont effectivement plus difficiles à mettre en place, comme vous l'avez dit, mais c'est important de travailler avec les forces de police locales, qui ont effectivement le mandat et le rôle pour gérer ces situations, mais de travailler effectivement avec d'autres acteurs locaux, oui. Que ce soit les communautés pour...
Et bien sûr les ONG aussi. Hein. Alors vous restez avec nous, Mathieu Luciano, on va vous retrouver à la fin de notre émission pour commenter aussi le reste de nos reportages. Charlie Dupio, vous avez aussi rencontré un jeune Soudanais de 25 ans qui vit maintenant à Paris.
Oui, il est né au Darfour et il a vécu avec sa famille comme immigré libre à Saba, dans le sud-ouest de la Libye, avant d'être capturé par des milices en 2015. Un jour où sa vie a basculé, son témoignage est rare par sa précision à décrire le marché de l'esclavage en Libye, des mots après les images de CNN qui ont fait le tour du monde.
De la Libye, ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'était quand je partais à la boulangerie pour m'acheter du pain. Je suis sorti et ma mère m'attendait à la maison. Et il y a une voiture qui s'est arrêtée. Mais je n'ai même pas eu le temps d'expliquer qui je suis, d'où je viens ou qu'est-ce que je fais là. Ils m'ont assommé avec le derrière de la Kalachnikov là.
Ils vous ont frappé la nuque en fait.
Ouais, voilà. Et je suis tombé, ils m'ont mis dans le coffre d'une voiture. On a roulé je ne sais pas combien de temps. Et ils m'ont amené dans un endroit où il y avait plus de 700 personnes. Tout le monde était maigre, ils amenaient que du pain et de l'eau. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ?
Ça ressemblait à quoi cet endroit ?
C'est un endroit qui est grand, avec toute cette cour qui est devant, et avec un mur qui fait, je ne sais pas, 4 mètres ou 5 mètres, un truc comme ça. Et il y a des barbelés et il y a un grand portail. C'est des grands bâtiments qui sont en construction mais qui ne sont pas finis. Il n'y a que des grandes salles qui sont vides. Et les fenêtres ne sont même pas bien installées, c'est juste des barreaux de fer. Du coup, on peut voir la ville de loin, il fait froid. Et
vous saviez où c'était en Libye ?
C'est quand on s'est échappé que je me suis rendu compte que j'étais à Tarhona, c'est pas loin d'une ville qui s'appelle Zlatan et pas loin de Tripoli aussi. Combien de temps je suis resté dedans ? Je ne sais pas, plusieurs mois. Dans chaque salle, il y a de 100 à 150 personnes. Certains dorment sans couverture. Je parlais avec d'autres Africains français. Je parlais avec d'autres Somaliens en arabe. J'ai grandi dans l'exil, dans une frontière. Je parle à peu près 5 langues. Comment les nommer, ceux qui ont des Kalachnikov, ceux qui torturent les gens, les bourreaux, ou je ne sais pas comment les nommer, des milices. Certains sont cagoulés, d'autres non, sont pas cagoulés. Il y a un qui m'a dit, est-ce que tu comprends ce que lui il dit ? J'ai dit oui. Ils m'ont dit, bon voilà, toi tu vas nous servir de traducteur. Ils m'ont demandé d'expliquer à un jeune homme la rançon, c'était 2000 dinars. Si cette somme n'est pas versée la semaine prochaine, il va se tuer. Sauf que lui, il pleurait, il me disait, non, je n'ai pas cet argent, ne me faites pas ça. Pour lui, j'étais un Libyen noir qui était associé à ces gens. Voilà, je traduisais des choses horribles comme ça. 3 jours après, ils ont retiré une personne, ils l'ont abattu d'une balle devant tout le monde parce qu'il n'a pas payé
sa rançon.
Ouais. Un monsieur aussi a été tué parce qu'il a essayé de s'échapper. Un matin, il y a une voiture qui est venue qui disait « Est-ce que tu as des Somaliens pour des travaux? Tu les vends à combien ?» Il comptait en dollars, c'était même pas en billets libyens. Il payait et c'est lui qui allait choisir ceux qui sont costauds et résistants. Et dans ce cas, il dit souvent « Je veux celui-là, celui-là. Et... » Mais il y a des personnes qui viennent, qui prennent jusqu'à 20 personnes. Les acheteurs, c'est des Libyens, c'est des personnes comme les autres. Ils n'étaient pas habillés en milice. C'est des personnes riches pour moi. Ouais, parce qu'ils étaient bien habillés et ils viennent avec beaucoup d'argent.
Bien habillés, c'est-à-dire?
Bien habillés, c'est porter un boubou et des vêtements tout propres, bien repassés et parfumés. Des chaussures qui coûtent cher, des bagues en or, des belles voitures. Ils viennent dans des 4x4. En plus, l'acheteur, il ne monte pas dans la même voiture que la voiture qui conduit les esclaves. Ils viennent avec un camion. C'est comme un bus où il n'y a pas de chaise et les personnes sont allongées dedans comme des bois, support posé comme ça.
À quelle fréquence vous voyez ce genre de personnes, donc des hommes, venir acheter d'autres hommes?
Ça peut être jusqu'à 3 fois par semaine. Les acheteurs, ils viennent souvent soit les matins, tôt, soit c'est la nuit. C'est des discussions comme ça. Ils discutent de côté, tu vois qu'il y a l'argent qui est remis sur une table. Souvent, le propriétaire, il n'est pas d'accord. Quand il dit pour les Érythréens, je les achète en dollars et je les prends à 600 dollars par personne, il dit non. Eux, ils n'ont pas été capturés, mais ils ont été achetés. Moi, je les ai achetés plus que ça. Là, à la porte, il y a une table, il y a des chaises. C'est là où ils négocient. Ils ont des papiers, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils écrivent. Ils discutent du prix. Et puis ils fument, ils sont tous armés.
Même la personne qui vient acheter?
Ah, bien sûr. Même la personne qui vient acheter, elle est escortée avec une milice. Parce que acheter des hommes et les amener quelque part. Et si jamais ils se battent, ils sont escortés avec, je ne sais pas, souvent 8 personnes, souvent 7 personnes, tous avec leur Kalachnikov. Moi, j'ai vu aussi qu'une personne a acheté, mais il lui dit « celui-là, je te le donne ». C'est horrible, non? On offre une personne à quelqu'un comme cadeau. Il y a des personnes qui s'en vont enchaînées avec du sang sur leur corps.
Et ces hommes qui partaient, donc vendus, vous ne les revoyez plus?
Non, personne n'avait le droit d'ouvrir la bouche pour demander où il va. T'es pointé du doigt et tu te déplaces aussi vite, sinon t'es battu. J'ai étudié l'esclavage à l'école, mais je ne savais pas que j'allais vivre ça moi. Si on me disait, je n'allais pas croire. On était en 2015, ça fait... bientôt 3 ans. L'esclave le plus cher, c'est l'Égyptien, parce que lui, il construit, c'est des maçons qui sont capturés. Il n'y a pas que des Noirs qui sont capturés et vendus. Hein. Il y a d'autres qui prennent des femmes.
Mais donc vous avez vu des acheteurs, des hommes, venir exclusivement pour des filles?
Ouais, ils les choisissent selon leur... je sais pas, la beauté ou leur corps ou le reflet de leur forme.
Ils les déshabillent?
Ouais. Pas toutes nues, mais ils les habillent seins nus et... D'autres étaient même enchaînés et d'autres, c'était des filles adolescentes. Il y avait des Érythréennes, des Éthiopiennes, des Somaliennes, Nigeria.
Elles sont vraiment à l'écart, en fait, ouais. Au-dessus de tout le monde.
Elles sont gardées fermement. Et...
Est-ce que vous, en voyant ça, vous posiez la question d'un jour être vous-même vendu?
Non, ça, je ne pensais pas qu'ils allaient le faire parce que j'étais un peu important pour eux. Et si je n'avais pas accepté, j'aurais pu être vendu aussi. La Libye, c'est le monde à l'envers. Hein.
Charlie Dupiot, comment Mohamed a-t-il fini par quitter la Libye?
En fait, pendant la fête de l'Aïd en 2015, la surveillance s'est relâchée. Plusieurs détenus ont pu desceller le barreau d'une des fenêtres à l'étage du bâtiment pour pouvoir s'enfuir. Et Mohamed s'est ensuite rendu sur la côte méditerranéenne en Libye, la peur au ventre, avant de prendre le bateau pour l'Italie. Il a rejoint Paris, où il vit depuis près d'un an et demi et où il a demandé le statut de réfugié.
Vous restez avec nous, Charlie Dupiot. Mathieu Luciano de l'Organisation internationale des migrations est également en duplex avec nous de Genève. Suite de notre émission et de nos reportages et de nos témoignages, vous entendrez notamment un migrant sénégalais revenu de Libye, des prostituées nigérianes en situation d'esclavage sexuel en France. On se retrouve dans 3 minutes, juste après le flash.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, journée spéciale, vous le savez, sur RFI, sur les migrants africains. Reportage pour nous, les migrants, la traite et l'esclavage moderne. Combien de témoignages pour que le monde se lève ? Big Marou Djolof est un jeune rappeur sénégalais de 27 ans. Il est rentré de Libye il y a un an, rapatrié par l'OIM, l'Organisation Internationale des Migrations, et le gouvernement sénégalais à partir du Niger. Je l'ai rencontré à Dakar la semaine dernière. Écoutez-le.
Tu arrives dans une frontière, on te dit si tu ne payes pas 10 000 ou bien 15 000, tu ne vas pas passer. Tu payes, tu remontes dans la bus. Tu n'as pas, il te fait descendre, il te frappe durement. Donc nous, on était en départ 90 personnes dans la bus au Bamako. Et avant d'arriver à Niamey, on était moins de 50 personnes. Les autres, on ne sait pas où ils sont. On les fait descendre dans la brousse et ils ne connaissent rien là-bas. Ils ont perdu. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ?
Et toi ?
J'avais beaucoup d'argent avec moi. En même temps, je parlais français. Des fois, les passeurs, quand ils avaient le problème pour parler avec les policiers ou bien les bandits dans la route, moi, je faisais la tradition. Et s'ils disaient « paye ça pour passer », moi, je n'hésitais pas. Je paye et je remonte dans la bus.
Où tu cachais ton argent sur toi ?
Oui, dans mon pantalon, mais loin, très loin dans mon pantalon.
Où ça exactement ?
Là, dans la ceinture ici, j'ai fait couper ici et j'ai plié l'argent, je l'ai bien plié et je l'ai mis dedans. De Mali, Burkina Faso, Niger, de Agadez, jusqu'à qu'on entre dans les mains des Libyens, c'est ça.
Tu es allé jusqu'aux mains des Libyens, toi, ou pas ?
On m'a arrêté à Saba. Saba, c'est en Libye. Là-bas, on a vendu tout le convoi.
Tout le monde du convoi a été vendu.
Avant même de quitter Agadez, on t'a fait vendre. Avant même de quitter Agadez, il y a des passeurs qui sont là-bas en Agadez. Ils vont appeler en Libye d'autres passeurs en leur disant qu'il y a tant de voitures qui vont venir avec tant de personnes. Certains seront torturés jusqu'à la mort. Certains seront morts en cours de route par la faim, la soif ou bien la fatigue. Si vous avez de l'argent avec toi, tu payes et tu passes. Si tu n'as pas d'argent, on te vend. Tu m'achètes à 150 000 francs, tu me mets dans votre prison. Il y a un autre passeur qui vient, tu me vends à 200 000 francs, tu as une bonifice de 50 000 francs. Elle me prend, elle me vend à un autre passeur, 250 000 francs, elle a un bonifice de 50 000 francs. Après, lui, il va les vendre aux Libyens.
Ça, c'est si quelqu'un de la famille envoie les rançons, bien sûr. Hein?
Ouais, ouais. Si votre famille n'envoie rien, il te donne le téléphone, il te frappe, il te maltraite, il te torture, il te masse des courants pour que tu cries, tu en dises
courant,
à tes parents.
Courant électrique ?
Pour que tu dises à tes parents, on est en train de me maltraiter, de me faire ceci, cela. Si tes parents ont les moyens, ils t'envoient cet argent. S'ils n'ont pas les moyens, ils ne vont pas t'envoyer. Maintenant, on a fermé la mer. Personne ne peut plus passer. Ou bien c'est très difficile pour passer. Beaucoup de gens ne peuvent plus rentrer au Niger pour aller en Libye. Donc il y a un blocage. Donc le business qui était là-bas pour que les Libyens reçoivent de l'argent sur les Africains, ce business ne marche plus. C'est pour cela que maintenant, les clients qu'ils avaient, maintenant ils les vendent aux gens, ils les amènent dans leur champ ou bien dans leur maison ou bien là où ils veulent, ils travaillent pour eux comme esclaves.
Comment as-tu organisé ton évasion de cette maison à Saba qui était gardée par des gardes armés ?
Oui. Il y avait une fenêtre derrière nous. On l'a cassée, quoi. Il y avait une dizaine qui avait pris cette décision. Il y a d'autres qui avaient peur. Parce que eux, s'ils te voient fuir, ils te tirent des balles. Moi, je l'ai vu dans mes propres yeux. J'ai vu même des filles qu'on amène dans une chambre. Et si un gars vient avec son argent, on le donne une fille. Il fait ce qu'il veut faire. Après, il s'en aille. Ça, moi, je l'ai vu dans mes yeux.
Dans cette maison à Saba, tu as vu des filles devenir esclaves sexuelles,
oui,
c'est ça,
oui,
à Saba ?
C'est ça, c'est ça. À Ben Wali et à Saba même. On vend tout le monde, des garçons comme des filles. Il y a même des filles qui sont plus braves que des hommes dans cette route. Quand ça devient difficile, tu vois des hommes qui pleurent ou bien qui disent « Non, je vais retourner ceci, cela. » J'ai jamais vu une fille qui pleure ou bien qui dit que je suis fatigué, je suis ceci ou bien ceci, je suis cela. Ça m'a beaucoup étonné. Ah, tu vois des filles guerrières. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer. Des fois, tu oublies beaucoup de choses.
Qu'est-ce que tu voudrais oublier en priorité, toi ?
Il y a un ami qui est mort dans mes mains. Je l'ai dit dans mon sanson.
Dans tes bras ?
Dans mes bras. J'ai dit « Laï, des waïsouman soulu nyuko ». mon ami Lai est mort sans être enterré. Buñ may fay sax bëggatuma, même si on me paye, je ne veux plus. C'est à la fin pour lui, il me disait que essayer de rendre fait un morceau et sensibiliser les jeunes Africains parce que ce n'est pas bon. Si tu vois ma mère, dis-la que je l'aime et occupe-toi d'elle.
Les migrations irrégulières exposent les migrants à toutes sortes de tentatives. L'Afrique a été toujours un tonneau de modèles, de valeurs. Les jeunes Africains doivent promouvoir les valeurs positives africaines. Je préfère rester chez moi que d'aller aventurer. Big Mark Djolof, parle avec la jeunesse africaine. Nous dirons signerez-vous.
Et vous pouvez bien sûr retrouver la chanson de Big Maru Djolof sur notre page Facebook 7 milliards de voisins. Alors vendredi dernier à Dakar, une manifestation de la société civile contre l'esclavage en Libye a mobilisé quelques centaines de personnes, parmi elles Mam Diarra, coordonnatrice de l'ONG Solidarité Active.
Les jeunes que vous venez de voir, tels que Maru, Babou et nos membres de Solidarité Active, parce que nous on travaille avec les jeunes et les femmes des banlieues. Au-delà de dénoncer ce qui s'est passé en Libye et ce qui est en train de se passer dans les autres pays, c'est aussi de sensibiliser les jeunes et pousser les jeunes qui sont déjà partis, les encourager à partager leurs expériences. Parce que tu vois des jeunes, même s'ils sont partis, même s'ils sont galérés, quand ils viennent, ils vont toujours continuer à faire semblant que l'Europe, c'est l'aile de radeau. Ils vont continuer à se saper, ils vont continuer à faire croire qu'ils sont allés en Espagne, même s'ils ont été refoulés ou bien qu'ils ont été vendus. Là, on avait des jeunes face à leur père et qui ont partagé honnêtement ce qu'ils ont vécu. Et je pense que ça va dissuader les jeunes qui sont ici. Et maintenant, il faut continuer à faire le plaidoyer au niveau de l'État pour qu'il renforce les actions de rapatriement des jeunes qui sont détenus en Libye et que l'État aussi renforce sa politique de jeunesse.
Quelle est selon vous la responsabilité des parents?
Les parents ont une grande responsabilité parce que ici on voit quand même ce sont les mamans qui prennent leurs tontines, qui vendent leurs bijoux en or ou bien qui vont contracter des dettes pour donner leur fils pour qu'ils partent parce que le fils de la voisine ou bien le fils de la coépouse est en Italie, en Espagne et il est en train de réussir, il est en train d'envoyer de l'argent tous les mois. Donc il faut que son fils parte aussi. Mais aussi, il y a le fait que les mamans, souvent, elles sont mal quand elles voient leur fils là avec ce sentiment d'échec qui traîne dans la maison ou au coin de la rue du matin au soir en prenant le thé avec leurs amis. Mais aucune maman ne veut ça. Si ton fils est détenu dans le désert, à quoi il va te servir? Si ton fils meurt en cours de route, comme le défend Lai, l'ami de Mahou, en quoi il va te servir? Il y a moins de 10% de chances d'arriver en Italie ou en Espagne. Donc moi, je pense que ça ne vaut pas la peine. Et si les mamans font ça aussi, c'est parce qu'elles ne sont pas bien informées. Parce qu'elles pensent que, comme Mahou l'a dit, si les coxeurs te vendent la route, tu as l'impression qu'au bout de 3 heures de voyage, tu vas arriver sans problème.
Aujourd'hui, quels sont les moyens d'action à privilégier pour la société civile que vous représentez?
Officiellement, je n'ai pas encore vu un passeur ou bien un coxeur qui a été arrêté. Il n'y a que des rumeurs. On va ouvrir à notre niveau des recherches pour voir est-ce que les passeurs qui sont à Dakar, parce qu'il y en a ici dans les gares centrales, on va aller vers des actions et mener des enquêtes pour voir est-ce qu'il y a des passeurs qui sont arrêtés. Et peut-être là, il faut qu'on travaille en collaboration avec l'État. On travaille déjà en collaboration avec les jeunes qui connaissent les gens qui les ont vendus. Ils connaissent leurs passeurs et ici, ils donnent même des noms.
Ils sont dénoncés sur le groupe WhatsApp, hein, notamment sur le groupe Les Clandestins.
Pour l'instant, c'est leur groupe privé et tout, mais moi, je leur conseille d'utiliser ces données et de porter peut-être des plaintes collectives, d'aller vers les autorités compétentes pour dénoncer ces gens-là.
Mam Diarra, donc de l'ONG Solidarité Active à Dakar. L'Afrique n'a pas le monopole de l'esclavage moderne. On trouve des migrants employés comme domestiques dans les pays du Golfe, pas payés, privés de leur passeport, et aussi des prostituées, y compris en France, que vous avez rencontrées, Charlie Dupio.
Oui, deux femmes qui ont été prises au piège dans des réseaux gérés par des proxénètes nigérianes. Elles témoignent sous de faux noms, écoutées, pisse, emmitouflées dans une doudoune, même à l'intérieur. Quand j'étais au Nigeria, près de Benin City, je travaillais dans un salon de coiffure. Là-bas, j'ai rencontré un homme qui m'a approché pour me dire « Tu travailles bien, avec ce que tu sais faire, tu gagnerais beaucoup d'argent en Europe. » Il m'a ensuite dit que sa sœur vivait en Espagne. Alors il l'a appelée. On a parlé toutes les deux par téléphone et elle m'a dit qu'elle gérait un très grand salon de coiffure en Espagne et que quand j'arriverai en Europe, je pourrais aller directement là-bas. On travaillerait toutes les deux et on partagerait les bénéfices. Alors j'ai pris un vol Air France depuis Abuja.
Quel âge vous aviez quand vous êtes partie ?
J'avais 23 ans, c'était en décembre 2012. Quand je suis arrivée à Paris, je devais acheter un billet d'avion pour l'Espagne. La France n'était pas ma destination finale. Quand je suis arrivée à l'aéroport d'Orly, j'ai acheté un billet pour l'Espagne, on m'a donné une carte d'embarquement, et là, quand l'agent de police a regardé mon passeport, il a vu que le visa, celui que j'avais utilisé pour venir en France, était faux. Les policiers se sont alors mis à m'entourer. Ils étaient une dizaine. J'avais peur. Je me demandais ce qui se passait.
Qui vous a fait votre visa ?
Je ne suis jamais allée à l'ambassade française pour demander un visa. Par contre, c'est moi qui avais fait les démarches pour avoir un passeport. Mon passeport n'était pas un faux. Ce sont eux, cet homme qui m'avait approché, d'autres qui ont tout fait et qui s'étaient occupés de me préparer un visa.
En fait, le visa qu'ils vous avaient fait était faux.
Oui, et les policiers m'ont détenu pendant 24 heures. Le matin suivant, ils m'ont libéré en me disant que désormais, je ne pouvais pas quitter la France. Je devais y rester parce que mon visa était faux. Quand ils m'ont fait sortir, j'ai essayé d'appeler, mais je n'avais pas de carte SIM européenne. J'avais seulement ma puce nigériane. Je ne connaissais personne en France. J'ai réussi à appeler la femme qui m'attendait en Espagne et elle m'a dit d'aller vivre chez une femme qu'elle connaissait à Paris, une autre Nigériane avec qui elle travaillait, je pense. Cette femme qui m'hébergeait faisait le trottoir et elle travaillait aussi dans un hôtel. Au bout d'une semaine passée chez elle, elle est venue me dire que ce n'était pas possible que je reste assise à la maison, sans contribuer au loyer ni à la nourriture. Alors, elle est allée au marché pour m'acheter une grande perruque. Elle m'a aussi ramené des talons. Très haut. Et le soir même, elle m'a donné des préservatifs. Elle m'a montré l'extérieur à travers la fenêtre et elle m'a dit « Regarde ces filles dehors, elles travaillent. Tu vas faire comme elles. » Je lui ai dit « Non, c'est pas possible. Ok, ce n'est pas possible, alors demain matin je te mets dehors et la police viendra t'arrêter pour t'expulser. » Et moi, je ne voulais pas retourner au Nigeria. J'ai compris qu'il fallait se prostituer dans un foyer pour migrants. Des migrants venus pour certains du Sénégal, du Mali, du Ghana. Tu rencontres l'homme dans sa chambre pour gagner 10 euros. La madame m'a dit que je devais lui rembourser 3000 euros par mois. Elle m'a dit qu'elle avait dépensé beaucoup d'argent pour moi, comme j'avais en plus voyagé jusqu'en Europe par avion et pas en passant par la terre. Mais comment c'était possible de lui verser autant d'argent ? J'ai pleuré, je ne savais pas quoi faire pour la rembourser.
Combien elle vous a dit ?
Elle m'a dit que je lui devais 45 000 euros. Je ne sais pas en combien d'années de prostitution on peut gagner cette somme-là. Je suis restée chez elle 6 mois. Et elle me disait, lève-toi, lève-toi, en Europe on ne dort pas, en Europe on travaille. Après, quand j'ai eu un récépissé à présenter à la police, ma madame m'a emmenée dans un endroit où je pouvais gagner plus d'argent, sur le trottoir à Vincennes.
Au bois de Vincennes.
Tous les mois, je lui rapportais ce que je gagnais. Si j'avais gagné 1 000 euros ou 1 500 euros dans le mois, je lui donnais. Et j'écrivais tout ça quelque part pour tenir les comptes.
Est-ce que vous gardez de l'argent pour vous ?
Oui, je gardais un tout petit peu pour me nourrir et payer mon loyer. Tout le reste, je lui donnais. Un peu plus tard, j'ai eu une douleur dans le ventre. Le médecin que j'ai vu m'a demandé quel travail je faisais. Je lui ai dit que je faisais le trottoir. Il m'a dit que je devais arrêter, sinon j'aurais une blessure très grave. J'ai dit à ma madame que je ne pouvais pas continuer à me prostituer, mais que j'étais prête à faire un autre travail pour la rembourser. Elle m'a dit non, et que si je ne pouvais plus la payer, elle allait s'en prendre à ma famille. Alors ma mère et le reste de ma famille ont déménagé pour se mettre à l'abri. Ils sont allés s'installer dans une autre ville au Nigeria, car des hommes sont allés plusieurs fois leur rendre visite dans leur ancienne maison pour les menacer en disant «
C'est parce que votre fille ne rembourse pas ce qu'elle nous doit. Et puis j'ai parlé à des amis qui m'ont dit d'aller parler à des travailleurs sociaux, que ces gens-là pourraient m'aider.
Vous avez pu rencontrer des travailleurs sociaux?
Oui, quand j'étais dans la rue en train de faire le trottoir, je voyais le bus de l'association Les Amis du Bus des Femmes. Mais ma madame et d'autres m'avaient averti. Si tu croises des équipes de ce bus, ne va pas les voir, ils vont te faire arrêter. Alors à chaque fois que je les apercevais, j'allais me cacher dans les buissons. Mais un jour, ils sont venus m'expliquer qu'ils n'étaient pas de la police. Et j'ai commencé à leur raconter mon histoire. Jusque-là, j'avais vécu dans beaucoup de mensonges et de peurs.
Et comment vous vous sentiez à ce moment-là, vous qui ne vous attendiez pas du tout à vous retrouver là-dedans, à devoir vous prostituer ?
Je me sentais très mal et déçue parce que je savais que ce n'était pas mon rêve. Ce n'était pas non plus l'éducation qu'on m'avait donnée. Est-ce que c'est ça que j'allais faire de ma vie ? Ces madames, elles sont terribles, elles n'ont pas de cœur. C'est de l'esclavage, car l'argent n'était pas pour moi. Ce n'était pas mon choix de faire le trottoir, ce n'était pas ce que je voulais faire. Et pour eux, on ne compte pas. Si quelque chose nous arrive, ils s'en fichent.
Alors, Peace a pu faire arrêter sa proxénète en portant plainte, ce qui est d'ailleurs très mal vu dans la communauté. Vous avez rencontré une autre femme nigériane, Charlie Dupio, toujours dans les locaux de l'association Les Amis du Bus des Femmes à Paris.
Elle a le visage rond, elle pose un regard maternel sur toutes les autres femmes nigérianes que l'association accompagne et elle garde, coûte que coûte, un sourire aux lèvres.
My name is Joy.
Je m'appelle Joy.
I came to France.
Je suis arrivée en France en 2010.
I came from Nigeria because,
j'ai quitté le Nigeria parce que j'étais tombée enceinte. Le père de l'enfant n'a pas voulu m'épouser. Il me disait qu'il n'avait rien, qu'il ne pouvait pas nous prendre en charge. J'ai donné naissance à mon fils. J'ai travaillé dans plusieurs endroits, par exemple comme couturière. Puis j'ai rencontré un homme qui m'a proposé d'aller en Europe. J'ai dit oui. Je savais déjà à l'époque ce qu'ils attendaient de nous en Europe. La plupart des filles nigérianes ne le savent pas avant de partir, mais moi, je savais que j'allais devoir me prostituer. Simplement, je ne savais pas comment ça allait se passer. Alors je suis partie. Je n'avais personne pour m'aider à la maison. Mon père venait de décéder et j'étais l'aînée de ma fratrie. Je devais me battre pour ma vie et pour celle de mon bébé. Ils nous ont emmenés à l'aéroport. Nous étions 15 filles. Et ils nous ont acheté un billet d'avion pour Londres, où nous devions faire escale avant de nous rendre à Madrid. Il y avait un homme qui nous guidait.
Et quel âge vous aviez ?
J'avais 24 ou 25 ans. À Londres, la police nous a arrêtés. Nous étions trop nombreuses et parmi nous, il y avait des filles mineures. La police pensait que j'étais celle qui avait emmené toutes ces filles. Les filles ont été expulsées. Moi, je suis restée en prison à Londres pendant 8 mois. Il y a eu des audiences au tribunal. Je n'ai plus le droit de revenir à Londres durant les 5 prochaines années.
Vous avez été expulsée au Nigeria ?
Oui. Et de retour au Nigeria, de gros problèmes m'attendaient. Ma madame, celle qui voulait me faire venir en Espagne, m'a dit toutes sortes de choses, que j'étais inutile. Ils voulaient me renvoyer là-bas et j'ai accepté. Cette fois, ils m'ont fait passer par le Maroc pour rejoindre Barcelone.
Qu'est-ce que vous avez fait de votre bébé ?
Je l'ai laissé à ma mère. J'ai rejoint ma madame en Espagne et ensuite elle est partie en France, à Paris. Alors je l'ai suivie. Avant que je quitte le Nigeria, on m'avait dit qu'il faudrait rembourser 45 000 euros. Quand j'ai rejoint ma madame, elle a déchiré ma carte SIM que j'avais ramenée du Nigeria et elle m'a confisqué mon téléphone. Elle a aussi pris mon passeport, elle l'a découpé et elle l'a jeté dans les toilettes. En France, elle m'a emmenée dans un hôtel à Châteaurouge.
Dans le 18e arrondissement à Paris.
Nous sommes restés là. Nous vivions dans la même chambre. Et le soir même, elle m'a fait sortir pour me présenter aux filles dehors en leur disant « C'est ma sœur, elle vient d'arriver, s'il vous plaît, pouvez-vous l'aider ?» Il fallait que ces filles m'aident à aborder les clients, car je ne savais pas parler français. C'est comme ça que j'ai commencé à faire le trottoir. C'est moi qui payais l'hôtel, toutes les nuits. Elle ne payait rien. Cela me coûtait plus de 40 euros par nuit.
Vous payez l'hôtel et vous lui donniez le reste de l'argent.
Je me levais et j'allais au foyer de migrants à 6 heures du matin. Je revenais à l'hôtel à midi, parfois à 14 heures, et je dormais 3, 4, 5 heures parfois. Puis je me réveillais et le soir j'allais me prostituer à Châteaurouge, dehors, jusqu'à 2 heures du matin, tous les jours. Il n'y avait pas de jour de repos. Je suis tombée enceinte en faisant le trottoir, 4 fois. La première fois, le préservatif a éclaté pendant le rapport. Alors ma madame m'a donné des comprimés de Cytotec, un médicament pour les maux de ventre, mais à forte dose, cela peut tuer le bébé.
Pour avorter.
Elle m'en a donné 50. 50 comprimés. J'avais peur, j'étais malade et plus tard on a dû m'emmener à l'hôpital. Je suis allée dans plusieurs hôpitaux français pour avorter, comme je suis retombée enceinte plusieurs fois. Et même quand je saignais, même quand j'avais mal au ventre, je retournais faire le trottoir pour gagner de l'argent.
Combien d'argent vous deviez lui donner à cette proxénète ?
Cela pouvait être 1500 ou 2000 euros par mois.
Et du coup, vous ne pouviez pas envoyer d'argent à votre mère et à votre enfant ?
La première fois que j'ai voulu transférer de l'argent à ma mère, j'ai donné 100 euros à ma madame pour qu'elle les lui envoie. Pouvez-vous imaginer ce qu'elle a fait ? Elle a pris l'argent et elle a juste envoyé à ma mère 5000 naira nigérians, 10 euros.
Elle a gardé le reste.
Oui, comme je voulais épargner pour financer plus tard la scolarité de mon fils, j'ai parlé aux filles nigérianes dehors et elles m'ont appris comment envoyer de l'argent chez moi aux Nigériens en secret. Si je gagnais 1000 euros pendant un mois, par exemple, je ne donnais à ma madame que 800. Mais quand elle a compris que j'envoyais de l'argent à ma mère, elle s'est mise à crier. Elle m'a dit qu'elle allait me tuer parce que j'avais prêté serment au temple avant de quitter le Nigeria. Je m'en souviens très bien. Ils m'ont pris des mèches de cheveux, mes dessous, des poils pubiens, des bouts d'ongles et un peu de mon sang pendant ce serment. C'est commun au Nigeria pour faire en sorte que tu aies peur. Comme ça, ils s'assurent que tu ne vas pas voir la police et tu ne parleras à personne dans la rue. Si tu ne donnes pas l'argent, ils te disent que tu vas devenir folle, que ta vie sera misérable et d'autres malédictions. Puis il y a eu cette dernière fois où un client m'a battue à Château-Rouge. Cet homme a failli me tuer dans la chambre d'hôtel. Il m'a pressé le cou et il m'a laissée inconsciente. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai appelé ma madame pour lui dire « Tu as vu ce qui m'est arrivé ?» Et elle a répondu « C'est comme ça, c'est ce qui t'attend dans ta vie. » Alors, j'ai décidé de prendre mon destin en main. Trop, c'était trop. Ce jour-là, j'étais en colère. Cet esclavage, je ne pouvais plus le supporter. Avec la madame, nous nous sommes battus dans la maison. Elle m'a giflé. Ensuite, j'ai attrapé son bras et je l'ai pressé contre le mur. Parce que la fille était jeune, elle avait seulement 25-26 ans, j'étais plus âgée qu'elle. Elle est partie se réfugier dans la salle de bain et un peu plus tard, elle s'est enfuie en Espagne. Depuis l'Espagne, elle m'a menacée en me disant qu'elle allait tuer ma famille et mon bébé. Et puis plus tard, j'ai trouvé le bus des femmes. J'ai participé aux réunions qu'ils organisaient ici. J'ai été soignée, j'ai été traitée dans un hôpital psychiatrique pendant 2 semaines. J'ai vu des psychologues parce qu'il y avait des moments où j'avais envie de me suicider. D'autres où je voulais sauter sous un train et plusieurs fois aussi, je suis sortie nue. Ensuite, on m'a emmenée raconter à la police ce que j'avais vécu.
Et vous avez porté plainte ?
Oui, et j'ai montré une photo de ma madame. Je ne le savais pas, mais elle avait déjà été signalée à la police en Espagne. Avec l'aide du bus des femmes, j'ai pu suivre des formations, prendre des cours de français. J'ai décidé de travailler pour eux. Je suis salariée dans l'association aujourd'hui. Je prévois de faire venir mon fils du Nigeria pour que tout aille bien, enfin. J'ai été esclave pendant près de 5 ans. Cela fait peu de temps que je suis libre. Nous devons tous nous battre pour mettre fin au trafic humain.
Charlie Dupiot, vous avez recueilli ces témoignages grâce à l'association Les Amis du Bus des Femmes. Il faut préciser que s'il n'y avait pas ces associations-là, l'État français ne fait pas son travail pour protéger ces êtres humains.
Oui, cette association accompagne ces femmes dans toutes leurs démarches, organise des groupes de parole et a besoin de dons. Le lien pour soutenir l'association est sur notre page internet 7 milliards.
Mathieu Luciano, vous êtes toujours avec nous en ligne de Genève. Vous êtes spécialiste des questions de traite d'êtres humains à l'Organisation internationale des migrations. On vous a entendu en première partie d'émission. Peut-être un mot de réaction par rapport à tous ces témoignages.
Écoutez, ce sont des témoignages qui sont bien entendu bouleversants et il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. La première chose à retenir, je pense, c'est que la traite des êtres humains n'est pas l'apanage de la Libye. L'esclavage moderne, c'est 40 millions de femmes, d'hommes et d'enfants dans le monde. Tous les secteurs économiques sont touchés et tous les pays sont concernés, y compris les pays européens. Peut-être le deuxième constat, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une prise de conscience récemment du problème et une mobilisation de la société civile, des gouvernements et une volonté qui permet d'avancer. Et je pense que ça, évidemment une très bonne chose.
Alors, si on revient sur les chiffres de la Libye, entre 400 000 et 700 000 migrants africains coincés en Libye, quelles sont les mesures de l'OIM pour stopper globalement les filières de trafiquants d'êtres humains, notamment dans la zone sahélienne ?
Alors la priorité des priorités, c'est la protection des migrants qui ont été exploités, violentés, torturés et les victimes de la traite. Il s'agit de leur fournir une assistance médicale, psychologique, juridique et une aide au retour pour les aider autant que faire se peut à se remettre de leur expérience et à se réintégrer dans leur communauté. Donc on travaille effectivement avec nos partenaires à ça. Mais ensuite, vous avez raison, il est important, et c'est une priorité aussi, de démanteler les réseaux de passeurs et de trafiquants d'êtres humains. Et donc c'est un autre axe de travail de l'OIM et de nos partenaires. Donc il faut travailler avec les pays d'origine, les pays de transit, les pays de destination pour faire plusieurs choses, pour renforcer l'arsenal juridique qui permet de combattre ces crimes.
Oui, peu de pays ont des lois qui criminalisent la traite, hein, à proprement parler.
Alors certains pays ont des lois, elles ne criminalisent pas forcément toutes les formes de traite. Par exemple, la Libye a des provisions dans son code pénal qui criminalise l'exploitation sexuelle, mais pas le travail forcé. Donc il faut travailler pour renforcer les outils juridiques, mais aussi, même quand il y a effectivement des lois qui existent, il faut renforcer les capacités des forces de police et de la justice pour que ces lois soient effectivement appliquées, pour qu'il y ait des enquêtes, pour qu'il y ait des convictions.
Merci beaucoup. Merci Mathieu Luciano. On arrive au terme de cette émission. Bien sûr, il faudra se retrouver avec vous en studio pour mieux comprendre cette traite moderne. Bien sûr, à la réalisation, Romain Dubrac, l'émission est à réécouter sur la page des 7 milliards de voisins, RFI. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On se retrouve demain, on parlera d'éducation comme chaque vendredi. Merci à vous tous de votre fidélité.